6h45, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous. Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les évolutions de la diplomatie cubaine.
Oui, après cette visite historique d'un premier ministre espagnol à Cuba il y a deux jours, le socialiste Pedro Sanchez vient rattraper le temps perdu depuis 2015 et profiter peut-être de l'isolement de Cuba. On en parle avec vous, Jean-Jacques Kurlianski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. Vous êtes le directeur de l'OPAL, qui alors, outre le revirement américain avec Trump, hein, Cuba se heurte maintenant à l'anticommunisme nouveau du Brésil et à l'affaiblissement de ses alliances sur le continent. Clairement, l'île a besoin de renouveler ses partenariats dans une Amérique latine un peu déboussolée, hein, comme vous l'écrivez récemment. Cuba est désorienté, hein, on pourrait dire.
Donc il s'était tourné d'abord vers le Venezuela, qui leur accordait, il y avait des opérations de troc finalement, puisque pour éviter de recourir au dollar, ce qui est impossible dans les conditions de sanctions actuelles des États-Unis à l'égard de Cuba. Donc c'était des spécialistes cubains en matière d'éducation, de médecine, de sport, en échange de livraison de pétrole. Bon, on connaît la situation économique du Venezuela, donc c'est nettement moins possible aujourd'hui que ça ne l'était il y a 7-8 ans. Donc il y a eu le Brésil, donc le Brésil qui a été l'un des investisseurs les plus importants dans la création du port hors taxe de Mariel à côté de Cuba. Bon, le Brésil, comme vous venez de le dire, a un nouveau président qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout disposé à coopérer avec Cuba.
Et avec la réplique de Cuba qui vient de retirer ses médecins, ce fameux programme Mais Médicos.
Oui, ça c'est pas du tout une surprise. Ouais. Hein, Jair Bolsonaro, donc le nouveau président brésilien, avait déclaré qu'il était hors de question que le Brésil finance une dictature. Et que le meilleur moyen de suspendre cette coopération médicale avec Cuba, c'était d'obliger les médecins cubains à revalider leur diplôme.
Et alors, puisque vous en parlez justement, pourquoi est-ce que Cuba s'est quand même privé d'une source de 400 millions de dollars de revenus annuels? Est-ce que c'est à cause de ces accusations ou parce que ces propos jettent aussi le discrédit sur un programme qui est mis en œuvre dans 67 pays, non?
C'est-à-dire qu'il utilisait la compétence des médecins ou la supposée incompétence des médecins pour rompre le contrat. Donc les Cubains ont anticipé et ont décidé le 14 novembre de rapatrier dans une opération qui est un pont aérien qui est en cours jusqu'au 10-12 décembre de rapatrier leurs 8332 médecins cubains. Bon, mais c'est révélateur donc de la dégradation qui était prévisible, hein, des relations entre le Brésil et Cuba, donc qui rend encore plus nécessaire pour Cuba la recherche d'autres partenaires. Donc le président Miguel Díaz-Canel, nouveau président depuis le printemps 2018, a effectué une première tournée dans 5 pays asiatiques.
Du 1er au 12 novembre.
Au début novembre. Donc la Chine, le Laos,
la Corée du Nord,
la Russie. Il a fait également à l'aller et au retour deux escales européennes. Une en France, où il a été reçu par le Premier ministre, et une au Royaume-Uni, où il a été reçu par le ministre de l'économie, sans doute pour vérifier l'état de la normalisation des relations entre l'Union européenne et Cuba, donc qui, pendant plusieurs années, à la demande du gouvernement espagnol, en 1996, avait été gelée.
Et alors précisément, cette visite de Pedro Sanchez, qui est peut-être un des seuls chefs d'un gouvernement à majorité socialiste en Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut apporter à Cuba? Puis on va parler réciproquement de l'Espagne, mais c'est vrai qu'on dit que c'est la deuxième visite seulement en 32 ans d'un Premier ministre espagnol. Pedro Sanchez a dit briser la glace, mais il y a également des intérêts économiques derrière, ou cette idée de pont avec l'Europe, justement.
Non, il y a les deux, puisque l'Espagne est le deuxième partenaire économique. Okay. Enfin, il faudra voir avec la baisse des relations bilatérales avec le Venezuela. Enfin, donc c'est le premier investisseur européen, en tous les cas. Donc c'est un partenaire économique important. Donc il y a des traditions anciennes. Donc Cuba a été la dernière colonie espagnole en Amérique latine, hein, jusqu'en 1899, au traité de Paris. Et donc, bon, ça a laissé un héritage humain assez curieux. Donc Fidel Castro cultivait ses origines galiciennes. Il a rencontré d'ailleurs en Galice un homme de droite, mais galicien, Manuel Fraga, ancien ministre de Franco, mais qui était né à Cuba, et qui donc avait une sensibilité, des sentiments pro-cubains en raison de son origine géographique, du lieu où il était né. Donc voilà, et tout ça quand même, ça existe, c'est un capital qui avait été préservé jusqu'en 1996, en gros, hein, avec les premiers gouvernements de centre-droit, avec Adolfo Suárez, qui avait donc le premier visité Cuba. Ensuite, Felipe González, en 86, ça avait été la deuxième visite, et puis un grand trou jusqu'à 2018, et la troisième visite donc d'un président de gouvernement espagnol, celle de Pedro Sánchez, qui n'est pas la première grande visite d'un chef d'État européen, puisque François Hollande l'avait précédé de 2 ans, ce qui préoccupait beaucoup les investisseurs espagnols qui avaient perdu un certain nombre de marchés, et notamment dans la rénovation de l'aéroport de La Havane qui a été confié aux aéroports de Paris.
Aux aéroports de Paris et à Bouygues, effectivement. Voilà. Est-ce que ça veut dire que l'Espagne aujourd'hui pourrait reprendre la main, si on peut s'exprimer ainsi, sur la France en termes de pont, encore une fois, entre Cuba et l'Union européenne? Ou alors, est-ce qu'il y a uniquement ces intérêts économiques, je crois 1,3 milliard de dollars d'échanges, à intensifier pour acquérir cette deuxième place? Effectivement.
Bon, il y a une normalisation qui était attendue par les investisseurs espagnols, par les amis de Cuba en Espagne, des relations avec Cuba. Il y a aussi, de la part de beaucoup d'Espagnols, le souhait de voir l'Espagne retrouver un rôle diplomatique non seulement à Cuba, mais sur l'ensemble du continent américain, qui avait été déstabilisé par la période Aznar et suivi par la période Rajoy, qui était très idéologisée. Et donc, on voit plus que d'une concurrence de la part de l'État cubain, le souhait de multiplier les possibilités d'avoir des points de chute lui permettant d'amortir les chocs récents concernant ses partenaires traditionnels.
Mais en termes de pont, dernière chose, avec l'Union européenne, on a reproché à Pedro Sánchez de ne pas rencontrer la dissidence. Je ne sais pas si les autres présidents l'avaient fait, François Hollande.
Non. Pedro Sánchez a quand même rencontré, en fait, les éléments de changement dans la société cubaine, qui ne sont pas politisés dans le sens classique du terme, donc des religieux et des entrepreneurs privés, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle des cuentapropistes, des gens qui sont à leur compte. Donc il y a une nouvelle constitution qui est en cours de rédaction à Cuba, donc elle va être approuvée en 2019,
le 24 février,
qui utilise là pour la première fois pour bien clairement le terme de secteur privé. Donc Pedro Sánchez, à la réception qui a été organisée à l'occasion de sa visite, a reçu tous ces éléments-là, qui sont, je dirais, les éléments, alors est-ce qu'on peut les appeler d'opposition, disons les éléments de changement, les Cubains n'aiment pas trop le mot, mais bon, appelons les choses par leur nom, les éléments qui peuvent conduire à un changement en profondeur de la société cubaine. Il y a un autre élément, effectivement, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, donc la visite de Pedro Sánchez est importante aussi dans le contexte d'une normalisation pleine et entière des relations de l'Union européenne avec Cuba.
Et avec, là, pour le coup, ce deuxième conseil Cuba-Union européenne qui s'est tenu, je crois, quelques jours avant la visite de Pedro Sánchez et qui porte sur les droits de l'homme. Alors, pour revenir à l'Amérique latine, juste un mot, on a parlé de ce choc avec le Brésil. Vous notez aussi dans vos articles cet affaiblissement des alliances ALBA ou CELAC, qu'on pourrait dire traditionnelles de Cuba. Mais on a beaucoup parlé de la venue de AMLO, à López Obrador, le nouveau président mexicain, comme lui-même étant proche de Cuba. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas une opportunité cubaine? López Obrador, dont je crois Fidel Castro disait c'est la personne la plus morale, avec l'autorité politique la plus grande au Mexique, quand le système s'effondrera avec le pouvoir mafieux.
Bon, Andrés Manuel López Obrador est mexicain, avant d'être latino-américain. Le Mexique a une expérience cuisante de ses relations avec le monde extérieur, notamment avec les États-Unis qui lui ont mangé la moitié de son territoire, qui sont intervenus plusieurs fois sur son territoire, avec la France qui a essayé d'en faire une semi-colonie. Il y a un musée des interventions étrangères qui est un musée officiel comme le musée du Louvre à Paris, qui est là pour rappeler aux Mexicains que tout le mal qui peut venir de l'extérieur. Ça se traduit comment? En matière de diplomatie, les Mexicains ont développé diverses théories selon lesquelles il faut privilégier la non-ingérence, la non-intervention. Alors effectivement, ça peut se traduire par exemple, on a des relations avec Cuba comme avec n'importe quel pays, mais aussi avec le Brésil de Bolsonaro. Bolsonaro. Ce sont des relations d'État à État.
Il n'y aura donc pas d'axe privilégié ni de reconfiguration.
Non, mais il y a eu une tentative à l'époque, en 2000, au moment de la première transition depuis 1927 électorale au Mexique, donc quand le gouvernement du PAN, donc démocrate chrétien de centre droit, est arrivé au pouvoir au Mexique, il y a eu une tentative d'idéologiser les relations extérieures et donc d'avoir des exigences en matière de politique intérieure et de droits de l'homme à l'égard de Cuba, que les Cubains ont très mal pris. Il ne faut pas oublier que Fidel Castro s'était réfugié au Mexique à l'époque de Batista et que c'est du Mexique qu'il est parti sur le bateau Granma pour finalement renverser le gouvernement Batista. Donc il y a des relations personnelles, des relations d'amitié qui avaient été rompues à ce moment-là. Donc AMLO, qui est un vieux membre du PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel, même s'il a fondé un nouveau parti, et s'inscrit dans cette tradition de défense de la souveraineté, non-ingérence. Donc la droite mexicaine, le PAN, a manifesté au Parlement, notamment en disant qu'il fallait pas inviter de représentants du Venezuela à sa prise de fonction le 1er décembre. La réponse a été très claire. Le Venezuela, c'est pas X ou Y, Maduro ou un autre qui est invité, c'est le Venezuela. Le Mexique a des relations avec tous les pays du monde. Donc il aura des relations avec Cuba de même nature que celles qu'il avait avant les gouvernements du PAN.
Eh bien, à suivre. Merci beaucoup Jean-Jacques Kurlianski, directeur de l'OPALC.